Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Les fidèles et les pasteurs de l'Église doivent s'élever en hâte et mener les bons combats spirituels sur les pas des deux saints apôtres martyrs Pierre et Paul, piliers de l'Église. C'est l'invitation lancée mercredi par le pape François à la solennité des apôtres Pierre et Paul. J'ai désiré d'un grand désir, c'est le titre de la lettre apostolique publiée mercredi par le pape. Les saints-pères y invitent les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la formation. Le logo officiel du jubilé 2025 a été dévoilé. Les détails, c'est dans quelques instants dans l'actualité de l'Église, avant de nous rendre au Burkina Faso, au Tchad et en République démocratique du Congo. La tension entre l'Éthiopie et le Soudan, la situation en Eswatini et en Libye feront entre autres l'objet de l'actualité sociopolitique africaine. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Solennité des saints apôtres Pierre et Paul, le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre de Rome mercredi. Une messe célébrée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Sacré Collège, toujours en raison des difficultés de santé du pape. Le Saint-Père a toutefois prononcé l'homélie dans laquelle il a invité les fidèles et les pasteurs de l'Église à se lever en hâte et à mener les bons combats pour former une Église libre et humble dans les pas des deux saints apôtres martyrs. Delphine Allaire.
Le pape note d'abord qu'aujourd'hui, parfois en tant qu'église, nous sommes submergés par la paresse, souvent nous sommes enchaînés dans la prison de l'habitude, effrayés par les changements, glissant ainsi vers la médiocrité spirituelle, regrette-t-il. Au contraire, le pape invite à devenir une église qui se tient debout, une église sans chaînes et sans murs, une église libre et humble qui se lève en hâte. En deuxième partie d'homélie, François a parlé du bon combat mené par Paul, en somme que chacun accomplisse la mission qui lui est confiée, que puis-je faire moi pour l'église, ne pas se plaindre mais s'engager. Répond le Saint-Père, participer avec passion et humilité.
Un processus synodal signifie que tous participent, nessuno al posto degli altri o al di sopra degli altri.
Église synodale signifie tous participent, personne à la place des autres ni au-dessus des autres, explique l'évêque de Rome. Mais participer signifie aussi mener à bien le bon combat, un combat car l'annonce de l'évangile n'accepte pas de compromis avec les logiques du monde. Au contraire, il s'agit d'allumer le feu du royaume de Dieu là où règnent les mécanismes humains du pouvoir, du mal, de la violence, afin, dit François, de demeurer des sentinelles vigilantes.
Toujours mercredi, à la solennité des saints patrons de Rome, martyrs selon la tradition, le pape s'est attardé à l'Angélus sur leur maturation progressive en tant que chrétiens, selon les contradictions de Pierre et les doutes de Paul. Nous aussi, nous hésitons face aux épreuves et nous devons plutôt en faire une occasion d'accroître notre confiance en Dieu. Le Saint-Père a ainsi parlé d'un apprentissage de la foi. Nous croyons que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, mais nous avons besoin de temps, de patience et de beaucoup d'humilité pour que notre façon de penser et d'agir adhère pleinement à l'Évangile, a en outre dit François. Le pape François a publié mercredi la lettre apostolique « J'ai désiré d'un grand désir ». Le Saint-Père y offre des pistes et des réflexions sur la célébration de la liturgie. Un an après la publication du motu proprio « Traditionis Custodes », François invite les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la formation. Françoise Niamien.
Publié le jour de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, la nouvelle lettre apostolique « J'ai désiré d'un grand désir » en latin « Desiderio, desideravi » revient sur la signification profonde de la célébration eucharistique telle qu'elle a émergé du Concile Vatican II. Elle invite tous les fidèles à retrouver un émerveillement de la liturgie, notamment à travers la formation, un an après la publication du motu proprio « Traditionis Custodes ». Le texte divisé en 65 paragraphes revient sur les résultats de la plénière du dicastère du culte divin de février 2019. Il fait suite au motu proprio traditionis custodes, publié le 16 juillet 2021, qui a réaffirmé l'importance de la communion ecclésiale autour du rite issu de la réforme liturgique post-conciliaire. Cette lettre apostolique, indique François, n'est pas une nouvelle instruction ou un directoire avec des normes spécifiques. Elle souhaite davantage apporter des pistes de réflexion pour comprendre la beauté de la célébration liturgique et son rôle dans l'évangélisation. Elle se conclut par un appel du pape François. Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion, continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie.
Le Vatican a dévoilé mercredi les logos officiels de l'année jubilaire qui se tiendra en 2025 sur les thèmes « Pèlerins de l'espérance ». Par la même occasion, ont été présentées quelques initiatives et projets de l'année sainte. Myriam Sanduno.
Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi dans la Sala Regia du Palais Apostolique du Vatican, le dicaster pour l'évangélisation a présenté le logo et a fait le point sur les préparatifs du Saint-Siège pour l'année sainte 2025, dont la devise est « Pèlerin de l'espérance ». C'est le président de l'ancien conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Fisichella, qui a dévoilé le logo. Œuvre de l'Italien Giacomo Travisani. Le logo montre quatre figures stylisées représentant l'ensemble de l'humanité des quatre coins du monde. Ils s'étreignent les uns les autres, indiquant la solidarité et la fraternité qui doivent unir les peuples. La première figure s'accroche à la croix. Les vagues sous-jacentes sont agitées pour indiquer que le pèlerinage de la vie ne se déroule pas toujours sur des eaux calmes. L'image montre comment le voyage du pèlerin n'est pas individuel, mais plutôt communautaire, avec les signes d'un dynamisme croissant qui se dirige de plus en plus vers la croix. Après l'été, a noté Monseigneur Fisichella, le site web officiel du jubilé et l'application associée seront disponibles afin de faciliter aux pèlerins l'expérience spirituelle et culturelle de la ville de Rome.
Mercredi, le pape a par ailleurs adressé un message à l'occasion de la célébration des 75 ans de la Fondation Caritas Espagnole. Le Saint-Père a principalement indiqué trois voies à suivre pour les services des plus nécessiteux. La nécessité d'atteindre les pauvres qui sont les destinataires privilégiés de l'Évangile, les préférés des dieux. Ensuite, l'imitation du style des dieux qui cherchent les plus faibles pour en prendre soin avec compassion et tendresse. Et enfin, l'importance de regarder de l'avant en tenant compte des changements qui adviennent pour savoir mettre ensemble les locales et l'universel. Autre message du pape publié mardi, c'est aux fidèles de l'Uruguay, invités à défendre la famille, lieu de protection de la vie. Dans un vidéo-message adressé aux opérateurs de la pastorale de la famille du pays sud-américain, François souligne la beauté de la vie en famille et la nécessité de protéger et défendre les valeurs familiales. Ce message était adressé à l'occasion de la clôture de la 10e rencontre mondiale des familles le week-end dernier. Au Burkina Faso, les grands séminaires Saint-Pierre, Saint-Paul de Kosogen a célébré son jubilé d'argent. Les comptes rendus de Paul Da.
Pour le chemin parcouru 25 ans durant, le grand séminaire Saint-Pierre-Saint-Paul a célébré une messe d'action de grâce le dimanche 26 juin 2022. Une dizaine d'évêques ainsi que de nombreux prêtres ont pris part à cette célébration jubilaire qu'a présidé Mgr Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Pour lui, il s'agit de
rendre grâce à Dieu ensemble pour tous ses bienfaits et recommander encore à Dieu cette institution de formation afin qu'elle continue de remplir la mission que Dieu lui a assignée, c'est-à-dire être une maison de préparation sérieuse des candidats au sacerdoce, un lieu où se cultive la communion pour vivre dans la fraternité, dans la solidarité, le service.
En tout, 1576 jeunes sont passés par cette maison de formation. 400 d'entre eux sont devenus prêtres ou religieux. Pour la suite, l'actuel recteur du séminaire, M. l'abbé Guy Sanon, entrevoit les défis à relever.
Si nous prenons le défi spirituel, aujourd'hui c'est un grand problème. Comment faire en sorte que ceux qui sortent de cette maison de formation soient pleinement chrétiens et pleinement africains? C'est la question de l'inculturation. Le deuxième défi, c'est au niveau humain. Nous avons passé de 2 ans de formation à 3 ans de formation en philosophie pour justement permettre à nos jeunes de faire face à ce monde qui est très exigeant.
Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
Rendons-nous au Tchad, où l'archidiocèse de N'Djamena a célébré en différé la Journée mondiale des communications sociales, conclue par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, Mgr Edmond Djitangar. Séverin Dingatoloum, pour plus de détails.
Communicateurs catholiques et non catholiques de la capitale tchadienne ont répondu massivement au rendez-vous. et ce, après un point de presse et deux conférences débat autour du thème de la 56e journée mondiale des communications sociales sur écouter avec les oreilles du cœur. S'appuyant sur les textes du 13e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, et sur le thème de la 56e commémoration, Mgr Edmond Ditangar a exhorté les communicateurs à s'unir pour jouer pleinement leur rôle d'éclaireur.
Une chose qui est bien triste, c'est quand on constate, je le dis en toute sincérité, que des communicateurs chrétiens s'entre-déchirent, se font la guerre. Et bien plus encore quand ils sont catholiques, cela me fait mal. Pourquoi j'engage nos communicateurs chrétiens à être entre eux solidaires, qui puisse nous éclairer, nous aider. L'information, c'est une formation en profondeur.
Pour le président d'organisation de cette commémoration, M. Lauro Gondier, le thème de l'écoute et du dialogue choisi par le Saint-Père vient à point nommé.
En ce moment de transition, le dialogue reste le seul moyen qui peut aider les Tchadiens. Et si le dialogue est pris comme un exercice de croisement de paroles qui place l'intérêt général,
signalons que la bénédiction des communicateurs et journalistes présents a mis un terme à cette célébration. Séverin Ngatolum pour Radio Vatican.
La cérémonie d'inhumation du cercueil de Patrice Lumumba se déroule ce 30 juin, jour de la fête de l'indépendance de la RD Congo. Ce sera dans un site aménagé sur une grande artère qui porte le nom de Lumumba. Parti de Bruxelles, les restes du héros de l'indépendance congolaise a fait escale à Kinshasa, à Onalua, à Lumumbaville, lieu de naissance de Lumumba, et aussi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, est revenu sur la signification du passage du reste de Lumumba dans la capitale économique congolaise.
Le passage de la relique du héros national Patrice Lumumba au Katanga a trois significations. La première, c'est qu'on doit absolument rectifier l'histoire et déculpabiliser les Katangais qui ont été accusés d'avoir tué Lumumba. Deuxièmement, c'est une façon de mettre, de concilier deux moments importants de notre histoire, le temps de l'indépendance et le temps actuel. Enfin, troisièmement, ce passage de la relique de notre héros national signifie qu'il faut s'interroger profondément sur la manière dont nous honorons l'idéal politique de Lumumba.
À propos du troisième point, je considère pour moi pas que nous sommes totalement en dehors de ce que mérite la mémoire du héros national Patrice Lumumba. Nous sommes dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un chaos qui ne dit pas son nom. Et nous sommes pratiquement loin de ce que nous attendions du combat d'un homme aussi important et d'une figure emblématique de notre histoire.
Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Des propos recueillis par Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est inquiété mercredi de l'escalade de la tension militaire entre l'Éthiopie et le Soudan et a appelé les deux pays à s'abstenir de toute nouvelle opération militaire. Khartoum a accusé lundi l'armée éthiopienne d'avoir exécuté en territoire éthiopien 7 soldats soudanais et un civil fait prisonnier en territoire soudanais dans la zone frontalière d'Al-Fashaga contestée entre les deux pays. Les gouvernements et l'armée éthiopienne ont démenti, accusant au contraire des soldats soudanais d'être entrés en territoire éthiopien, déclenchant un accrochage avec une milice locale ayant provoqué des pertes dans chaque camp. Les deux principales villes d'Eswatini étaient placées mercredi sous haute surveillance un an jour pour jour après les premiers morts d'une vague de manifestations pro-démocratie qui ont secoué pendant plusieurs mois ce royaume d'Afrique australe. La police et l'armée lourdement déployées ont patrouillé toute la nuit de mardi à mercredi dans la capitale Mbabane et Manzini à environ 40 km selon des témoignages. Des organisations pro-démocratie ont appelé à commémorer les héros de la lutte tombés au combat l'an dernier pour réclamer l'avènement de la démocratie. aucun incident n'a été signalé en Mbabane et Manzini, mais des routes ont été bloquées et des pneus brûlés dans des zones plus reculées de l'Eswatini, anciennement appelée Swaziland. Meurtres, tortures, esclavage. Les migrants qui sont détenus de façon systématique en Libye sont victimes d'atroces exactions, en particulier les femmes qui sont violées en échange de nourriture et d'eau, ont dénoncé des enquêteurs de l'ONU mercredi. Des responsables libyens se retrouvent cette semaine à Genève pour discuter du projet de cadre constitutionnel pour les élections en Libye où deux gouvernements se disputent les pouvoirs. En parallèle, la mission de l'enquête de l'ONU sur la Libye, qui s'est rendue plusieurs fois sur place, a publié mercredi un nouveau rapport. Les migrants qui tentent de trouver un passage vers l'Europe disent avoir subi des violences sexuelles de la part des trafiquants et des passeurs, souvent dans le but d'extorquer leurs familles, selon ce rapport.
Radio Vatican, France-Afrique, Stanislas Kambashi.
Les autorités sénégalaises ont interdit une manifestation contre le pouvoir, prévue mercredi à Dakar, au risque d'accroître un peu plus la colère de l'opposition dans un climat de tensions préélectorales grandissantes. Au moins 13 personnes ont trouvé la mort dans le sud du Togo après qu'un minibus a heurté un arbre à la suite de l'éclatement de l'un de ses pneus sous l'effet d'une vitesse excessive selon des sources officielles. Les bus qui transportaient principalement des commerçantes a dérapé suite à l'éclatement du pneu avant droit dû à la vitesse et au mauvais état des pneus pour se retrouver sous les ponts de la rivière selon un communiqué du ministre de la Sécurité, le général Damehame Yark. Les procès des 49 militaires et agents de sécurité de l'État, poursuivis dans une affaire de plusieurs millions d'euros pour corruption, détournement des fonds et abus de pouvoir, s'est ouvert mardi en Angola. Selon les parquets, cette affaire aurait coûté plus de 52 millions d'euros à l'État angolais.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine revient sur la situation de la famine due à la sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique depuis 4 ans. Environ 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, ce qui nécessite une prise en charge urgente au Kenya, en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée. Pour Louis Vigneault Dubois, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en Afrique, la situation est de plus en plus déplorable.
La situation reste toujours très désolante dans la région de la Corne de l'Afrique. Donc, malgré le fait qu'il y ait eu quelques pluies très timides, ce n'est vraiment pas suffisant pour avoir un renversement de situation. Donc, il y a toujours un nombre important d'enfants qui font face à des besoins urgents. À ce moment, nous comptons environ 10 millions d'enfants pour toute la région de la Corne de l'Afrique qui sont impactés par la sécheresse et donc qui font face à la malnutrition, au manque d'eau potable et aussi qui font face à des déplacements et à un risque que leur éducation soit interrompue.
Il y a quelques mois de cela, on était à 1,7 million d'enfants menacés par une malnutrition aiguë. Qu'en est-il aujourd'hui?
Nous en sommes maintenant à 1,8 million d'enfants qui font face à une malnutrition sévère aiguë. Donc, ces enfants ont besoin d'être suivis. Et donc, si les prévisions météorologiques vont se poursuivre comme c'est pour le moment, ce chiffre risque d'augmenter jusqu'à 2 millions d'ici les prochaines semaines. Donc, c'est une situation qui continue à se détériorer.
Alors, y a-t-il eu des décès parmi ces enfants qui étaient menacés par cette malnutrition aiguë?
Bien sûr, il y a des enfants qui décèdent malheureusement de la malnutrition. Il est difficile pour nous d'avoir un chiffre exact sur le nombre d'enfants décédés, mais c'est une situation que nous suivons de près. Et nous savons que malheureusement, c'est souvent une combinaison de facteurs qui mène au décès d'enfants. Donc ça peut être la malnutrition, mais aussi le fait que en ce moment, il y a des épidémies comme le choléra et aussi la rougeole. Et aussi combiné au déplacement parfois de population et la perte des moyens de subsistance. Donc lorsqu'on combine tous ces facteurs, souvent on observe une augmentation très rapide, exponentielle du nombre de décès d'enfants. C'est une situation de sécheresse qui se prolonge depuis maintenant 4 ans. C'est la pire situation qu'on a observée dans cette région depuis 40 ans. Et donc ça affecte bien sûr les populations les plus pauvres. Ça affecte aussi leurs moyens de subsistance. Donc la population s'appauvrit et c'est malheureusement souvent les enfants qui sont les premiers à en subir les conséquences.
Nous sommes au mois de juin. Qu'en est-il de l'aide financière demandée pour faire face à cette situation?
Donc, nous avons fait un premier appel en février. Le chiffre a bien sûr augmenté au vu des besoins qui ne cessent d'augmenter. Donc, à ce jour, nous avons un appel pour la région de la Corne de l'Afrique de 810 millions d'euros. C'est pour, bien sûr, faire face aux besoins immédiats, urgents, des enfants et de la population pour la prochaine année. Mais c'est aussi pour pouvoir adresser des problèmes structurels, si on veut, dans la région et pouvoir améliorer la résilience des populations dans la Corne de l'Afrique. Donc, sur les 810 millions d'euros qui sont demandés à ce jour, nous avons obtenu environ 28% de ces fonds de l'aide demandée. Je ne sais pas si c'est un manque d'enthousiasme, mais il y a sans aucun doute une multiplication du nombre de crises partout dans le monde. Et il faut bien sûr comprendre que plusieurs pays ont réaffecté certaines ressources pour des crises comme en Ukraine, par exemple. Donc, notre message aux bailleurs, c'est que, bien sûr, toutes les crises sont importantes, mais il ne faut pas oublier non plus la Corne de l'Afrique, qui demeure une situation très, très critique. Donc, si nous n'arrivons pas à apporter une aide immédiate et aussi à adresser les problèmes plus structurels, on risque d'avoir une situation très, très difficile avec beaucoup de décès, beaucoup de morts d'enfants.
Alors, face à cette situation, quelles sont les actions de l'UNICEF sur le terrain?
Alors, notre première priorité, c'est bien sûr la malnutrition, de continuer de dépister et de prendre en charge les enfants. Par exemple, pour ce qui est de la Somalie, le nombre d'admissions dans les centres de traitement pour la malnutrition a augmenté de 50% par rapport à la même période l'année dernière. Au Kenya, par exemple, le nombre d'admissions a augmenté de 70% par rapport à l'année dernière. Nous poursuivons aussi notre appui pour la prévention et la prise en charge des épidémies. Je mentionnais tout à l'heure le choléra qui fait de plus en plus de victimes dans cette région et la rougeole, afin donc de renforcer le système de santé, de pouvoir mener à bien des campagnes de vaccination et de prévention et d'améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations dans le besoin. Il faut aussi penser à l'éducation des enfants qui sont touchés. À ce jour, c'est 1,4 million d'enfants qui sont en risque de décrochage. Nous appuyons dans cette région les différentes structures afin de pouvoir poursuivre l'éducation des enfants à partir des plus jeunes.
Louis Vigneault-Dubois, porte-parole de l'UNICEF en Afrique. Il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Place à la culture avec Françoise Niamien.
Commençons par la troisième édition du Festival de cinéma Les Teranga qui se tient du 29 juin au 2 juillet prochain au Grand Théâtre National de Dakar au Sénégal avec comme pays invité le Royaume du Maroc. Organisé par l'association Cinéma 221 en collaboration avec le Grand Théâtre National de Dakar et d'autres partenaires, cette troisième édition a pour thème « Prendre sa place de femme par le cinéma ». Née de l'initiative de l'association Cinéma 221, dont les membres fondateurs sont les professionnels du cinéma sénégalais, les Teranga récompensent les talents du continent et de la diaspora. Cet événement est aussi un outil d'intégration africaine, de promotion de la destination Sénégal, de professionnalisation du secteur et veut figurer parmi les rencontres majeures du continent selon les organisateurs. Soulignant les raisons du choix du Maroc comme pays invité d'honneur de cette manifestation cinématographique, Fatou Jupiter Touré, fondatrice du festival, réalisatrice et comédienne, a souligné les liens multiséculaires, religieux, économiques et académiques avec le Sénégal. Aussi, pour la réalisatrice, le Maroc et le Sénégal sont liés par divers accords de partenariat, notant que le Maroc compte plus d'une trentaine de festivals de cinéma, d'où elle a affirmé l'importance d'inviter des professionnels marocains pour l'échange d'expériences avec leur homologue sénégalais en la matière. Ce sont plus d'une centaine de films qui ont été sélectionnés pour le prix du meilleur film, a fait savoir pour sa part l'actrice Zeina Diop, elle aussi membre fondatrice du festival. En plus de la cérémonie d'ouverture mercredi, les organisateurs prévoient un marché du film avec des rencontres, des ventes, des panels, des workshops, des masterclass et des projections de films. Rendons-nous à présent au Bénin. Ouverte le 20 février, la première exposition des œuvres d'art restituées au Bénin par la France, intitulée « Art du Bénin, hier et aujourd'hui », s'est refermée le 22 mai dernier. Monsieur Alain Godonon est directeur des programmes musées au Bénin et commissaire général de cette exposition, nous fait le bilan de cette première phase.
Ça a eu un succès énorme. Nous avons décidé de faire une pause, hein, comme c'était prévu. Enfin, c'était prévu de fermer le 22 mai, mais vu l'engouement populaire, et ça c'est la seconde phase, nous avons décidé de rouvrir pour la période des vacances, à partir du 15 juillet prochain et jusqu'au 28 août, pour permettre justement aux Béninois, aux vacanciers qui sont au Bénin et à la sous-région cette fois-ci, de pouvoir voir cette exposition. Quand on regarde, hein, on analyse les réactions des visiteurs. C'est d'abord le premier, l'étonnement, la première réaction. Ensuite, la fierté par rapport à la grandeur des œuvres que les gens découvrent. Et puis aussi, plein d'étoiles dans les yeux avec la création contemporaine béninoise que les gens ne connaissaient pas et qui se révèle là aussi. Donc, ça a vraiment été des moments importants. Donc, beaucoup d'émotions, aussi beaucoup de fierté, de sentiments. Ça a été, je crois, un moment important dans la fierté nationale.
Monsieur Alain Godonon, directeur des programmes musées au Bénin et commissaire de l'exposition Art du Bénin hier et aujourd'hui.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.